83, Rimon.
Je me pose la question au dernier coup. Je vous avais dit que pour distinguer l'être et l'âme, il fallait bien voir qu'il y a deux premiers dans l'ordre de l'intelligibilité. L'un est premier du côté génétique, l'autre est premier du côté perfection. Pourquoi ne commence-t-on pas la métaphysique par l'un afin de respecter le conditionnement de notre connaissance pour mieux la dépasser et ensuite atteindre le maître? Oui, si vous voulez, on peut très bien commencer toute la philosophie par le problème de l'individu. Ça peut se faire. De fait, j'ai mieux commencé la métaphysique par les parties de la métaphysique, c'est-à-dire par le travail, par l'amour d'amitié. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Puis alors on arrive au problème propre de la métaphysique, tout de suite par le problème du jugement d'existence. Le problème de l'individu serait comme une grande propédeutique de toute la philosophie. Ça peut être comprendre. Je l'ai déjà fait à Fribourg. Mais je ne sais pas si ça avance tellement. De faire une grande propédeutique de cette manière-là. On pourrait le faire, c'est pas du tout exclu, hein, c'est pas du tout exclu. Ce qui est difficile parce que ça rentrerait dans tout le problème ensuite de l'éthique du néoplatonisme et de l'aristotélisme. Dans une vision historique de la philosophie occidentale, je crois qu'il faudrait commencer par le problème de l'individu multiple. Héraclite, Parménide. Et alors là, ce serait très intéressant. Dans une grande vision, une topique historique. Ça pourrait très bien se comprendre. Dans une perspective où l'on veut essayer de comprendre, avant tout dans notre monde d'aujourd'hui, ce qu'est une philosophie réaliste, j'aime mieux commencer par l'expérience. Il faut beaucoup de souplesse, il n'y a pas de premier, vous savez. Parmi nous, dit ça admirablement, la déesse a sa méthode. La déesse, c'est celle qui essaie de découvrir l'être, alors elle a pas de méthode. On n'a pas de premier absolu dans l'ordre génétique. Dans l'ordre génétique, il n'y a pas de premier absolu. Dans l'ordre premier selon l'ordre de nature, oui. C'est ça que quand on dit au commencement de la philosophie, comme c'est le père Maréchal, on peut donner des ordres différents. Alors il y a un premier génétique historique, ce serait le problème de l'individu multiple, l'œcuménisme philosophique, je vous l'ai dit. Et puis un premier dans l'ordre génétique aussi, pour mieux comprendre tout de suite ce que c'est que la philosophie réaliste, l'expérience. Et c'est plutôt ça que j'opte. Je prends plutôt ce point de vue-là. Alors, je vous ai dit, je n'entre pas plus un problème d'Aristote sur l'individu, ça ne veut pas dire que nous avons tout dit, mais il y a quelque chose sur lequel je vais m'arrêter quand même un instant, ce qui serait très intéressant. C'est le problème de l'individu chez saint Thomas. Pour voir comment saint Thomas a utilisé toute la métaphysique d'Aristote de l'individu multiple. Et comment il a précisé certains points qu'Aristote nous a pas donnés. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment saint Thomas utilise ce problème de l'individu multiple. Et comment saint Thomas apporte à ce problème quelque chose de nouveau, c'est la convertibilité de l'individu multiple, de l'être et de l'un. Alors le problème de la convertibilité est quand même propre aux théologiens. C'est Albert le Grand le premier, je crois. Bon, c'est Albert le Grand le premier, déjà Avicenne. Ce sont les Arabes. Ce sont les Arabes qui ont commencé par le problème de la convertibilité. Et ça, c'est déjà chez Avicenne. Mais c'est justement Albert le Grand, vous savez, qui dans ce problème de la convertibilité par rapport à l'autre, alors, c'est tout le problème, toujours près de l'État, des théologiens qui utilisent la philosophie et des philosophes ensuite qui utilisent les théologiens. Vous comprenez bien. Il y a un double problème. Je le nomme des théologiens, Avicenne est un théologien, Saint-Thomas est un théologien. Ils utilisent la philosophie grecque. Ils utilisent un croyant. Ils font une théologie. Nous utilisons ce théologien pour voir la manière dont ils ont digéré la philosophie. Et on fait un scrute de restement de théologie. Bah, bœuf bleu, comme on l'a oublié, dans les plusieurs estomacs, car le bœuf bleu qui digérait la philosophie d'Aristote, et on fait voir ce que cette philosophie d'Aristote est devenue dans l'estomac du théologien. Second. Alors, pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Ou alors, essayer de dire qu'est-ce que c'est venu. Alors, il y a un problème qui est propre pour le jeu, c'est le problème de la convertibilité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je voudrais plusieurs fois, nous y reviendrons, pour que vous compreniez ce que c'est que ce problème de la collectivité. Il est posé chez les théologiens, en repas pour les théologiens. C'est visé d'autres critiques de la métaphysique, idéologique, sans clignot. C'est pour ça que lorsque un théologien parle de la collectivité de l'être, on ne sait pas à quel niveau se place. Est-ce qu'il se passe dans une critique? Qu'est-ce qui se passe à la vie métaphysique? C'est le privilège du théologien. Pourquoi? Parce qu'il est dans une lumière supérieure de lumière. Par ça, il faut bien comprendre. Plus vous êtes dans une lumière, plus vous pouvez faire de vastes synthèses. Mais comprenons bien que si nous remettons bien, il faut que ces vastes synthèses soient repensées selon leur ordre propre. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Nous reconnaissons tout de suite la sagesse de quelqu'un dans la mesure où il ordonne. Il y a une sagesse énergique, il y a une sagesse théologique, il y a une sagesse mystique. Les trois sagesses, hein, on a toujours les trois en fin de vous. Hein. Donc, il est petit à petit à comprendre l'ordre de ces trois sagesses. Donc, quand on est au niveau de la sagesse théologique, théologique acquise. Alors, Avicenne, Aldebaran, Saint-Thomas. Les trois. Car c'est toujours les trois. Sagesse acquise, théologie acquise. Ils ont tous les trois une théologie acquise. Une théologie musulmane, une théologie chrétienne. Indépendant, Saint-Thomas. Et tous les trois, forcément, en tant que sagesse acquise, en tant que théologie acquise, vont avoir un ordre particulier. L'ordre d'Avicenne, l'ordre d'Indépendant et Saint-Thomas. Si vous voulez étudier le droit, ce serait très intéressant. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces trois grands théologiens? Le problème de la convertibilité de l'être de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ces théologiens sont-ils se traduits de convertibilité? Ça n'existe pas chez l'Aristote. C'est un problème théologique. C'est proprement théologique. C'est intéressant de voir que c'est apparu à l'intérieur de ces trois théologiens. Je regarde un dernier point, parce que un dernier point dit explicitement ceci. C'est que le problème de la convertibilité de l'être, avec la res et un, le philosophe, l'être à l'égard de la vérité du vrai, à l'égard du bien, le théologique. Les théologiens et les saints. C'est-à-dire Augustin. C'est-à-dire les philosophes, c'est-à-dire Avicenne. C'est Aristote. Parce que tel dernier grand, c'est très important. Et c'est très intéressant. Un dernier grand fait dans son tableau de convertibilité de l'être à l'état de presse. Et un, il dit, ça c'est le philosophe. Et puis, les théologiens, les saints, l'être avec le regard du vrai, le regard du bien. Que fait Saint Thomas? Je vous ai dit, que vous devez répéter, question première, article premier, ce texte qu'il faut tous avoir lu, Et après l'avoir traduit, dites-moi que t'as une question. Le compétent en faisant en traduire en latin, qu'il traduise de l'épanouir sur un article 1. Parce qu'il faut avoir tous lu ce texte majeur de ta tête. Le texte qui va en s'agit. Donc là, il y a un texte, il y a les quatre versets de la lettre, on a traduit que ça, c'est déjà quelque chose. Alors, tandis que, ici, je vais donner des questions articulaires, il y a la grande fadette de Saint-Thomas. Et la grande fadette de Saint-Thomas, c'est de reprendre S ou N. Allez, oui. Saint-Thomas est juste. Vrai, bien. Différence entre Albert le Grand et Saint-Thomas, c'est que Saint-Thomas a lu avec lui. C'est quand même très intéressant. Et grâce à cette appui, Saint-Thomas n'a plus besoin de s'appuyer sur un point de vue historique. Il faut s'intéresser au niveau des rationales. Ce que Albert le Grand n'avait pas fait. Saint-Thomas pousse plus loin. Et ça ne fait même pas plus de la tradition des philosophes et de la tradition des saints, il faut tout simplement rationnels. C'est rationnels, la rationnelle, la rationnelle, je dis rationnelle, c'est intraduisible. Hein? Traduisez comme vous voulez, ça n'est pas c'est intraduisible, mais on n'aurait jamais traduit rationnelle. Il faut arriver à comprendre ce qu'on a fait de dire quand on dit rationnelle. Ratio, ça traduit logos. Ça traduit logos. Ratio, c'est la raison d'être. Mais en français, on se pose sur lui de la raison d'être. Il me dit bien sûr qu'il passe dans un sermon. La raison d'être. La ratio, la solidité en latin, on a dit l'économie. À savoir que la ratio, la ratio, la raison d'être. La ratio est convertible avec la ratio douce, la ratio rémique, la ratio alcoolique, la ratio négatrice, la ratio bénéfice. Ou la ratio dirigée, la ratio douce. Ça, c'est un gros problème, hein, le problème de la convertibilité. Il faut comprendre que c'est méprendre dans le problème d'éthologie, qui se fait aussi bien de l'éthologie que de la critique. Et c'est pour ça que c'est venu à partir de Suarez, qui a magnifisé la pensée théologique de saint Thomas, à partir de Suarez, c'est venu le point de départ de la métaphysique. Alors on a commencé la métaphysique par un problème critique. Et à partir de ce moment-là, la métaphysique ne s'est plus reposée sur l'expérience de l'être. Mais alors je comprends la critique véhémente de Heidegger, une métaphysique qui commence par l'idée de l'être, ou le concept d'être, mais ne peut plus nous faire comprendre ce que c'est connaître. Donc c'est lui, cette histoire de la pensée, et c'est par le sommet, mais ça, ça dépend seulement. Le problème de la convertibilité de l'être avec le développement rationnel, c'est quelque chose de très très central. Faut essayer petit à petit de comprendre. Alors il faut essayer que le sommet avec un 17 reste, ça c'est un 17. Au moins, c'est Aristote. Vrai ou bien Saint-Augustin. Déjà vrai, c'est déjà chez Aristote, hein. C'est déjà chez Aristote, parce que Aristote le dit dans le premier petit livre Alpha de la métaphysique, mais Albert le Grand n'a pas dit ce livre. Dans le livre de Saint-Augustin, c'est intéressant de voir ça. Mais c'est vrai qu'Aristote a déjà dit, dans votre vrai humain, sont convertibles, certainement rectifie. Il a dû bondir un peu quand Albert le Grand disait certaines choses et qu'il n'était pas tout à fait selon l'histoire. Hein. Bon, alors, il y a ce problème-là chez saint Thomas. Je comprends que saint Thomas a vu la convertibilité de l'un et de l'être. Alors, vous comprenez que c'est intéressant d'un livre philosophique. Parce qu'il faut comprendre que quand saint Thomas nous dit que l'un est convertible avec l'être, saint Thomas se place au niveau du théologien. Et non pas du tout au niveau du métaphysicien. qu'il faudrait arriver à comprendre, alors, dans une perspective critique, que dire que l'un est convertible avec l'être, et dire que l'un est propriété de l'être, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on dit que l'un est convertible avec l'être, on se prostitue au droit des rationnesses. On est donc dans un problème d'intelligibilité. Quelle est l'intelligibilité que vous avez de l'un? Quelle est l'intelligibilité que vous avez de l'être, ce qui est? Donc on est au niveau d'un problème d'intelligibilité, au niveau de rationnesse. Quand vous parlez au contraire de l'un comme propriété de l'être, vous êtes au niveau métaphysique, vous êtes au niveau de la réalité existante. Donc ne confondons pas le problème critique, de réflexion critique, où on se situe au niveau de l'intelligibilité, et le problème métaphysique, où on se situe au niveau de ce qui est, comme tel. C'est pour ça que là, il y a quelque chose de très important à bien saisir. Et que de fait, si vous prenez Saint Thomas de façon un tout petit peu matérielle, vous confondez les deux. Et dans la scolastique décadente, on a confondu les deux. Je prends en plus, de nouveau, ce problème dans la métaphysique. Saint Thomas précise ce qu'est la ratio unus. La raison de l'un, c'est l'indivisibilité. En commentant le nom divin, Saint Thomas affirme que la ratio unitatis consiste dans l'impartibilitas, l'impartibilitas. Car il est un l'être qui n'est pas divisé. Et dans la somme, comparant l'un à l'être, il dira très nettement que l'un ajoute à l'être l'indivision. C'est intéressant de voir ce passage de l'indivision, de partie de impartibilitatis, ce qui n'a pas de partie, et ce qui n'a pas de division. Mais au point de vue du langage, c'est intéressant d'une précision dans le langage de Saint-Thomas. Dans le commentaire de métaphysique, il souligne que la division que présuppose la ratio unus, selon que l'un est convertible avec l'être, n'est pas la division de la quantité continue, qui est présupposée à l'un principe du nombre, mais la division qui cause la contradiction. Selon que cet être-ci et celui-là sont dits divisés, du fait que celui-ci n'est pas celui-là. La division peut avoir de niveaux différents. Vous savez ce qui est très intéressant par rapport à tout le problème de Hegel, parce que c'est le problème de la division. Et de considérer la division de se comprendre à deux niveaux différents, au niveau de la quantité et au niveau de l'être. Au niveau de la quantité, ne pas être divisé, c'est de ne pas avoir de partie. Au niveau de l'être, ne pas être divisé, c'est d'être un. Et la division dans l'ordre de l'être fait naître la contradiction. La division au niveau de la quantité, c'est simplement l'être, la multiplicité. Cette division si radicale sépare ou indique une détermination et une négation. Celui-ci n'est pas celui-là, ce qui suppose l'opposition de l'être et du non-être. Donc, voir comment la division fait apparaître la contradiction. La division est une chose très très importante en critique. Hein. C'est une chose très très importante à division, parce que c'est une opération très élémentaire de la vie d'intelligence. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, je vous ai déjà dit, quand on lit un philosophe qu'on ne connaît pas, il est intéressant de saisir la manière dont il divise. toujours très important de voir comment je peux trouver. Parce que c'est des exercices pratiques au moment des examens. On verra tout de suite la manière dont le candidat se sert du scalpel. C'est pas ce petit instrument de division. Et là, on verra tout de suite s'il fait de la charcuterie ou bien s'il fait de la bouffe. S'il fait de la charcuterie, alors il divise un peu de bain. Au bout d'un certain temps, c'est le boudin. C'est ça, alors vous savez ce que c'est. Tandis qu'au contraire, il fait quelque chose de propre, qui divise proprement organiquement. Alors au bout d'un certain temps, il y a un plat avec des parties présentables. C'est la même chose, tu vois. Et c'est intéressant de voir ça. On a vu le tonton divise. Donc cette division plus radicale, la division la plus radicale qu'il soit, c'est l'être et le maître. Alors comment vous divisez l'être? L'être et le maître. Pourquoi vous divisez l'être en étant le maître? Posez la question, vous voyez. C'est quand même très curieux. On divise être et maître, c'est une division. La division la plus élémentaire qui soit, on n'a jamais été aussi loin, être et la maître. Et cette division apparaît très vite à la marche parmi nous. Être et la maître. Qu'est-ce que vous divisez quand vous divisez l'être et le maître? Parce que le maître n'existe pas. Alors qu'est-ce que vous divisez? Vous divisez un fantasme, vous divisez quelque chose dans lequel vous êtes battu de mon-être. Divisez l'être et mon-être, il faut diviser l'être et mon-être. Vous divisez le mon-être par rapport à l'être, pourquoi? C'est une division pour la vie. L'intelligence, c'est l'ordre de l'intelligence. L'intelligence, elle est divisée, elle divise pour plus clarté. On divise dans le tout confus. Soit tout confus, on divise. Et si ça, c'est ce problème de l'ordre, lui, il y a tout ça. Hein. C'est pour ça que c'est important, c'est ça. Donc, métaphysiquement, pour le bonheur, il est au niveau de la division. C'est l'indivision.
C'est l'indivision. Si vous savez pas ce que c'est la division, vous savez pas ce que c'est la division. Non, il faut savoir ce que c'est la division. Qu'est-ce que c'est la division? Alors la division première, c'est quand l'être est divisé du non-être. Là, ça c'est une division très calée. Il n'y a que les philosophes qui font ça. Vous n'avez jamais divisé l'être ou le maître. Cherchez bien. Non, je te donne la partie du non-être. Le partage, honnête. Je prends le maître, je te donne mon maître. Moi je prends l'être. Quand vous dites une farce, c'est très bien. C'est un tout confus la farce. Et vous divisez, c'est la division de la quantité. C'est une autre partie, vous savez. C'est la division de la quantité, mais on a plus. C'est une partie. Vous avez divisé entre deux, c'est une partie, la droite et la gauche. C'est-à-dire deux parties. Alors avant, il y avait qu'un. Il y avait une petite confusion. Ça, on comprend très bien cette division. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous divisez une partie? C'est comme quelque chose qui divise une partie. Vous divisez une continue. Et vous avez deux parties. Parce que le tout est divisé, et tout en attendant de la division. Il y a dans notre petit particulier pour diviser. En attendant de la division. Et quand vous avez divisé, vous êtes actué. Là, ça devient plus clair. Ça devient plus clair. Et tout confus devient plus clair parce que vous l'actuez, vous divisez. Alors, on a une partie comme ça, une partie de l'autre. Si vous ne divisez pas, qu'est-ce que ça fait? Vous tirez chacun de côté, et vous voyez ce que ça fait. Tandis que c'est beaucoup plus propre hein, quand c'est divisé. C'est divisé, c'est net. C'est bien net, c'est bien divisé. Vous divisez pour clarifier. Alors, quel est le tout? L'être et le non-être, ça c'est le tout qui fait le tout entre les deux. Le tout entre l'être et le non-être. Est-ce qu'on peut faire un tout de l'être et du non-être? Est-ce qu'il y a un tout dans l'être et le non-être? Alors, vous, l'être et le non-être, quand il s'agit, c'est devenir.
Pardonnez-nous, donnez-nous votre lumière. C'est une façon de concevoir. Et c'est la manière dont conçoit le vécu. Au cœur de la vérité, il y a toujours la synthèse de l'être du maître dans le livre. Toujours. Impossible autrement. Et donc c'est important de saisir le problème de la division. C'est à partir de là que met la vérité. La vérité va partir de là. N'importe quel moment de vérité implique la synthèse de l'être du maître dans le livre. Parce qu'il vous dit que cette vérité, c'est impossible, ce que je dis. Hein. C'est pas, c'est donc la fête, ça n'existe pas. Le maître, c'est pas maître. Alors pour définir notre maître, demandez ça à quelqu'un qui a du bon sens. C'est pour que je vais vous prie beaucoup. Quand je suis au côté de l'autre, je dis maître, ça ne vous connaît pas beaucoup. C'est quand même deux choses tout à fait différentes. Le maître, d'où ça vient? Le maître, il vient d'avoir de l'urgence. C'est un autre maître. Le maître, c'est le mot ici. C'est notre maître. Il ne faut pas additionner notre maître. C'est impossible de faire ça. Il ne faut pas additionner les deux. Le maître n'existe que dans mon intelligence. Et pourquoi mon intelligence éprouve-t-elle le besoin du maître d'avenir le maître? Je suis divisé. C'est pas divisé. Première division. Le maître, je le mets en opposition de l'être. C'est pour mettre en pleine lumière l'être. Ça, pour faire la synthèse. Si mon intelligence éprouve le besoin de créer mon maître, il a créé cette autre raison. C'est un être besoin de maître. Si la vérité c'est qu'on a besoin de créer notre maître. De fait, historiquement, on voit, à partir de Carbonie, et le maître, il va utiliser ça, je n'ai plus de maître, mais nous sommes le maître. C'est évident qu'il a créé le maître. Et tout le monde va le mettre en distance sans du tout savoir ce que c'est, sur l'importance du maître. Si jamais un jour vous demandez qu'est-ce que c'est que le maître, je sais imbécile. Vous ne savez pas demander ce que c'est que le maître. Tout le monde en parle, il faut en parler avec les autres, on continue d'en parler sans savoir du tout ce que c'est. Mais le maître, c'est la maître de raison. C'est l'intelligence qui l'a façonné. Elle l'a façonné en les conditions du maître. Pour mettre en plus une lumière maître. Pourquoi? Parce que mon intelligence ne saisit pas clairement l'être. Vous ne pouvez pas me mettre dans le cadre de l'intelligence. Si l'intelligence éprouve le besoin de parler du maître, c'est parce que l'être ne saisit que logiquement. Si l'être se saisit uniquement, je ne trouverai pas le besoin du maître. Je n'ai pas besoin de poser mon chat pour saisir le chat. C'est bien évident. Vous pouvez vous mettre mon charme pour saisir ce que c'est que le charme. Non, non, pas du tout. Vous faites la synthèse. Mon charme est chevalier. Vous avez le verre. À ce moment-là, vous avez quelque chose de tout à fait particulier. C'est deux mondes, si vous voulez. C'est la synthèse. Vous êtes quand la réalité est saisie qualitativement. Vous pouvez être saisie en elle-même, directement dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'être mère. C'est important de dire pourquoi l'intelligence éprouve le besoin de créer le maître. Tout ce qu'elle peut faire, elle peut créer le maître. C'est curieux, c'est très très curieux. L'intelligence éprouve le besoin de créer le maître. Pour mettre en ligne le maître, elle éprouve le besoin de créer le maître pour mettre en ligne la création. L'acte créateur de Dieu est expliqué. À partir de l'être. Les deux grands moments où l'intelligence est pour le plus grand que du maître, c'est pour mettre en lumière l'être, il est. Et il ne peut pas être maître. C'est pour mettre en lumière l'être. Et c'est pour mettre en lumière l'acte créateur de Dieu. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, je suis en train d'une réalité qui m'échappe. Que je ne crée que d'une manière confuse. Que je ne crée que d'une manière analogique. Alors j'ai besoin de clarifier ma dualité. Et pour clarifier, je me demande.
Vous avez dit que ça va être compliqué.
Ça fait quoi? Ça clarifie, oui, parce que ça m'aide énormément, vous comprenez. L'être, c'est quelque chose de tellement fondamental. Il ne peut pas être l'être, par exemple, tout ce que l'être. Il n'y a rien que de l'être. Et comme mon intelligence est une de l'intelligence qui compare,
alors, j'ai besoin de deux pieds pour marcher. Ça besoin de deux échasses. Quand je monte un peu, disons, j'ai besoin de deux. Alors, je crée mes lettres. Alors, c'est bien, je compare.
Et si je quitte l'objectivité, la comparaison est avant d'être mon être. Et je laisse à terre. Oui, quand même, le conditionnement de l'intellectuel conduit à la vérité. Le conditionnement intellectuel, mon intelligence, n'est pas assez forte pour s'aider directement à l'être. Alors je saisis analogiquement. Et mon intelligence n'étant pas assez forte, je saisis analogiquement et je saisis que l'être est indivisible. L'âme est indivisible. L'intelligence qui compare.
Alors, j'ai besoin de deux pieds pour marcher. Ça besoin de deux échasses. Quand je monte un peu, disons, j'ai besoin de deux. Alors, je crée mes lettres. Alors, c'est bien, je compare.
Et si je quitte l'objectivité, la comparaison est avant d'être mon être. Et je laisse à terre. Oui, quand même, le conditionnement de l'intellectuel conduit à la vérité. Le conditionnement intellectuel, mon intelligence, n'est pas assez forte pour saisir directement l'être. Alors je saisis analogiquement. Et mon intelligence n'étant pas assez forte, je saisis analogiquement et je saisis toujours par mode de comparaison. Alors, j'ai besoin pour saisir une réalité qui est tout à fait revenir, ce qui est. Pour la saisir dans ce qu'elle a de prendre, de créer l'opposé. C'est très curieux. Et on fait toujours ça, c'est curieux. Hein. On a besoin toujours d'avoir une opposition. Et avec l'intelligence, dans toute sa pureté, l'intelligence, pour l'être, elle crée le maître.
C'est ça qui est extraordinaire.
C'est invraisemblable de voir ça. Là, c'est pas étonnant dans notre pratique, on a toujours besoin de voir quelqu'un qui est en opposition, la culture devant laquelle on se repose. Qui a besoin de ça? Qui a besoin de comparer, de reposer? Il y a des gens qui pensent en opposition. La pensée dialectique, elle ne pense qu'en opposition. Et nous sommes tellement d'autres sans besoin de venir. Il n'arrive plus à regarder la réalité pour elle-même. Vous ne pouvez la penser qu'en opposition. Dieu est maître. Et quand vous faites ça, c'est parce que vous avez perdu le sens de la vérité. Et vous ne regardez plus que le conditionnement. Ça, c'est capital de sentir ça, de saisir ça. Et ça, c'est le problème de l'ambiguïté. Ça, pas tout de suite, on saisit ça. Et il faut saisir, justement, quelque chose qui, au fond, doit nous aider à saisir ce que représente ce problème très fondamental de la négation. La négation va permettre de saisir ce que c'est que l'un. L'être, le non-être. L'un. Puisque l'un, c'est la négation de division. Quand on a fait division, lui, ça va saisir l'un. Tandis que l'être, c'est sur quoi se fondent toutes les oppositions. Alors, nous continuons à lire ce petit passage intéressant. Alors, saint Thomas va préciser dans ce commentaire de métaphysique, commentaire le livre 10, leçon 4. Le livre 10, donc, certain nombre précis d'objets. C'est le livre 4, par exemple. Le livre 4, leçon 3, numéro de l'édition Marietti, 565. Alors, ça permet de dire ceci. Il est plutôt négation-privation de vision dans l'être. Là, c'est certainement qu'il dit ceci, là est l'être non divisé. Être non divisé. Vous voyez, quand vous voulez préciser ce que c'est que là, vous employez le mot else et vous employez le mot division. Et vous employez la négation. Comme c'est difficile d'exprimer ce que c'est que là. Et c'est vrai, si je veux expliquer ce que c'est que là, là, je suis obligé de dire ça. L'un et l'autre non divisé. Or, la division appartient à la multitude qui s'oppose à l'un. Il revient donc à celui qui considère l'un de considérer la négation ou la privation. Or, la négation est double. Il y a une négation pure et simple par laquelle on dit que ceci n'est pas attribué à cela. Hoc non est illi. Et il y a une autre négation au niveau du genre ingénéré par laquelle on ne nie pas quelque chose absolument, mais dans les limites d'un certain genre. Ainsi, aveugle ne s'applique pas de façon absolue à ce qui n'a pas la vue, mais à ce qui, dans le genre animal, possède par nature la capacité de voir. La négation absolue, donc ça c'est une chose très importante, ça vient d'Aristote. Hein. Aristote considère que la négation peut être considérée à deux niveaux différents. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au maître. La négation peut se situer à deux niveaux différents. La négation ingénérée dans un genre donné. Et la négation prise de façon absolue. Absolue, simple suite, applaus. Donc la négation prise d'une façon absolue, la négation. Ça c'est important quand on veut comprendre un peu la pensée hégélienne, hein, parce que ce sont des petits instruments qui nous permettent seuls à comprendre les confusions qui se font. Quand vous êtes en face de ce problème de la négation. Donc, la négation absolue peut se vérifier aussi bien du non-être qui est apte à supporter une affirmation, qu'on laisse l'atome adhérer affirmationnel, qu'un être qui normalement devrait avoir et qui n'a pas. Car non-voyant peut se dire aussi bien de la chimère que de la pierre ou même de l'homme. Mais la privation implique une certaine nature ou substance déterminée, dont on dit la privation. Car on ne peut pas dire aveugle tout ce qu'il ne voit pas, mais seulement ce qui par nature doit voir. Vous ne dites pas d'un arbre qui est aveugle. Tandis que vous le dites d'un petit chien, d'un petit chat. Oui. Donc, c'est la privation de quelque chose qui est capable d'avoir. Tandis que vous pouvez dire maître, hein, de tous, c'est radical. C'est tout ce qui n'est pas être, tout simplement. Et ainsi, puisque la négation qui est incluse dans la raison de l'un, est négation dans un sujet, ce qui donc le non-être pourrait être dit un, il est clair que l'un diffère absolument de la négation et se rapproche davantage de la nature de la privation. Ça, c'est très intéressant comme étude de l'un. Je vous signale simplement pour vous montrer qu'il y a eu dans saint Thomas, par rapport à la pensée d'Aristote, une recherche très intéressante de se comprendre, de comprendre bien ce que c'est que l'un par rapport à l'éducation. Donc si je veux philosophiquement comprendre ce que c'est que l'un, je reviens nécessairement dans le l'éducation, puisque l'un, c'est ce qui n'est pas divisé. Donc c'est ce qui est au-delà de la vision. Ce qui n'est pas divisé, ce qui n'est plus pas divisé. C'est donc la négation de la division, ou d'une manière plus précise, comme le fait remarquer ici saint Thomas, la privation de la division, qui nous permet de préciser la raison formelle de l'un, ce qui n'implique pas de division et un. Voilà ce que c'est que l'un. Vous connaissez d'une façon très négative. c'est très difficile de se dire ce que c'est que. Si on réfléchit vraiment à ce problème, vraiment, ce qui n'implique pas de division est un. Si l'intelligence reconnaît immédiatement un être, et si celui-ci la détermine fondamentalement, elle le découvre l'unité de l'être en se servant de la négation, qui est son œuvre propre, un être de raison. L'intelligence fabrique un être de raison pour se dire ce que c'est que l'un. Pour dévoiler l'un. L'un est tellement caché dans l'être qu'elle a besoin qu'on dévoile de l'être de raison. De l'être de raison de la division. Et c'est de ça qu'on peut beaucoup plus parler du dévoilement de l'un que du dévoilement de l'être. Et là aussi, c'est intéressant par rapport à Heidegger. Il y a un vrai dévoilement de l'autre, ça c'est très vrai. Un dévoilement, c'est l'œuvre de l'artiste. L'artiste dévoile l'unité de la réalité. C'est le propre de l'artiste, je crois. Il dévoile l'unité de l'action humaine. Il dévoile l'unité de la figure. Il dévoile l'unité profonde de la forme. Il dévoile ça, c'est l'œuvre artistique qui dévoile. Et le philosophe dévoile l'unité en se servant de la négation, de l'être de raison. Ce que saisit en premier lieu notre intelligence, affirme saint Thomas, en reprenant l'expression d'Avicenne, primo intellectu nostro cadit ens, c'est maître. Voilà la première chose que l'intelligence saisit. Elle saisit d'une manière confuse, et c'est pour ça qu'elle a besoin de négation. Donc, alors ce fameux passage hein, sur lequel il faut méditer souvent, au plan philosophique, la méditation philosophique. Oui, c'est pas la méditation tout court, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir là-dessus. Donc, la première chose que l'intelligence saisit, c'est que l'analyse, plus la division, plus la privation de la division. Donc, je vous renvoie à saint Thomas, métaphysique 10, leçon 4, numéro 1998. C'est un lieu très classique. Donc ça, c'est un lieu qu'il faut absolument avoir saisi ce point de vue qui est intéressant à comprendre. Ce que l'intelligence comprend en premier lieu, c'est l'être, puis la division, puis l'un qui est privation de la division, et en dernier lieu, la multitude. Qui est constitué d'unité. Car bien que les choses divisées soient multiples, elles ne sont pas dans la raison de multiples qu'après qu'il a été attribué à celui-là ou à celui-ci d'être un. Vous avez l'ordre génétique par l'intelligence comprend le multiple. Très intéressant de voir ça. Ce qui lui montre bien que la dialectique n'est pas du tout quelque chose de premier. Si l'on ramène l'être à l'un, ou si l'on considère l'un comme antérieur à l'être, la négation joue un rôle fondamental, primordial, et l'être apparaît alors à partir de la négation, qui est un être de raison. N'est-ce pas là la différence essentielle qui sépare Hegel de saint Thomas? Et d'une manière toute différente, Plotin d'Aristote. Et là, on était devant quelque chose qui me semble très très important à bien saisir. C'était déjà présent chez Aristote, mais c'est beaucoup plus net chez saint Thomas. L'être, la négation, l'un. Puis le multiple. Quatrième position. Quatrième position. Je saisis le multiple. Je saisis tout d'une manière intelligible. Hein. C'est-à-dire le multiple implique la négation de l'autre, la division de l'autre. La négation de la division de l'autre. C'est ça, donc c'est vraiment plutôt comme ça, ce serait plus. L'être, l'individu, et l'émotion de l'individu.
problème de compagnie.
Je ne veux pas entrer plus dans Saint-Thomas, simplement rester à ce point de vue-là. Il y a beaucoup d'autres aspects. Je crois que c'est le problème de la convertibilité, avant tout, qui doit nous faire comprendre qu'il y a dans Saint-Thomas tout un problème de l'un qui est très complexe. Après avoir donné cette petite topique rapide, regardons au plan philosophique comment se pose pour nous le problème de l'un du multiple. Alors, comme toujours, il faut revenir au langage. Le langage est le premier lieu où nous commençons à philosopher. Donc, nous devons regarder d'abord le langage. C'est-à-dire comprendre que dans le langage, l'un s'ajoute. Nous avons le besoin d'ajouter l'un à la forme, à la qualité, à l'existence de la réalité. Ce fameux problème qu'Aristote reprend toujours, affirmer l'homme et l'homme un. Affirmer telle réalité et affirmer qu'elle est une. Et en même temps, affirmer la multiplicité. Parce que c'est vrai que nous reconnaissons tout de suite ce problème de l'un et du multiple. Au niveau du langage, je n'insiste pas, c'est un signe. Deuxièmement, au niveau de notre expérience psychologique. C'est facile de comprendre, puisque l'être humain est l'être le plus complexe qui soit, de comprendre qu'il y a en nous une terrible complexité. Et qu'ordinairement, on ne sort pas de cette complexité. On se débat dans cette complexité. Et qu'au niveau psychologique, vous n'avez pas de solution. Vous constatez la complexité. Vous constatez la multiplicité. Et puis c'est tout. Et vous constatez la morphologie de l'unité à travers cette multiplicité. Donc vous comprenez qu'au niveau psychologique, il y a un très gros problème. C'est le problème psychologique par excellence. La complexité et l'unité. Et qu'à certains moments, la complexité est tellement forte que vous n'arrivez plus à vous unifier. Alors c'est la bataille et c'est le drame. Voilà, une schizophrénie qui se fait nous séparer en deux. Alors il y a le bonhomme du matin, le bonhomme du soir. Il y a le bonhomme de la droite, le bonhomme de la gauche. Il y a le bonhomme optimiste et le bonhomme pessimiste. Il y a le bonhomme du ciel, le bonhomme de la terre. Il y a Jésus, ça peut prendre tous les drames possibles. Hein. C'est curieux ça. Quand l'unité est plus forte, alors la division se fait très forte. La division. Mais au niveau psychologique, hein, vous aboutissez à quoi? Vous aboutissez à ce problème. Vous ne pénétrez pas dans l'être. L'être échappe au psychologue. Alors quand je projette sur Dieu la psychologie, je dis Dieu sans l'être. Parce qu'il n'était pas au départ. Je n'ai pas découvert. Celui qui dit Dieu sans l'être, alors qu'il n'a jamais découvert l'être. Il reste dans son moi psychologique. Et le moi psychologique n'est pas l'être. Je veux voir la division très très bien. La division, je peux la toucher psychologiquement. La multiplicité, je peux la toucher psychologiquement, mais pas l'être. Alors c'est pour ça que je ne peux pas arriver à un niveau de la complexité. Et c'est pour ça que l'unité psychologique, c'est l'équilibre. L'équilibre de quoi? Du milieu dans lequel vous êtes. De bailler en même temps que tout le monde et de marcher en même temps que tout le monde. C'est équilibré. Et si jamais vous baillez à un moment où ce n'est pas permis, vous n'êtes pas équilibré. C'est ça la question d'équilibre. C'est là dans l'équilibre.